En esprit et en vérité 11 Le culte et la conscience. L'apôtre Paul a exposé quatre grands principes qui, s'ils sont mis en pratique par tous les membres, permettent à une assemblée de s'édifier dans la paix et d'éviter les schismes. 1. Le premier principe, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10h23. 6h12, par les termes tout est permis, l'apôtre n'entend pas énoncer une vérité d'ordre général. Il est évident qu'il n'est pas en train de dire que rien n'est interdit dans le christianisme ou même que tout ce qui n'est pas interdit est, de ce fait, autorisé, confère 1 Corinthiens 6, 9,10. Il faut d'abord garder ce principe dans le contexte qui est particulier à Corinthe et à ce que Paul évoque dans le 10e chapitre de 1 Corinthiens. Dans ce chapitre, Paul traite un problème spécifique à l'assemblée de Corinthe, que peut-on manger? Peut-on manger ce qui a été préalablement offert aux idoles? Pour l'apôtre, la vérité essentielle sur ce point est simple, manger de tout ce qui se vend au marché, car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. 1 Corinthiens 10h25. Paul est donc en accord avec Jésus, les aliments n'ont aucune conséquence sur le plan spirituel. Il dit aussi, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. 1 Corinthiens 6h12. La question des aliments est en outre traitée au chapitre 8 et 9 de 1 Corinthiens, mais les aliments présentent un problème pour les églises primitives, tant en milieu juif qu'en milieu non-juif. Chez les chrétiens issus, le Nouveau Testament est clair sur ce point, les aliments n'ont aucune portée spirituelle, Marc 7h19-21. 1 Timothée 4, 1 à 5, Colossiens 2h20-23. Seuls les excès de table sont condamnés, Galates 5h21. 73, du judaïsme existait une tendance à conserver les restrictions alimentaires de la loi de Moïse, confère Galates 8, 1,7, 10,19. Ceci représentait un problème pour toutes les assemblées, même celles qui étaient composées d'une majorité de chrétiens non-juifs, du fait que les premiers conducteurs et docteurs de l'Église étaient issus du judaïsme, confère Actes 18, 1, 2, 18h24, 15, 1 SS, Philippiens 3, 4 SS, Actes 10, 9 SS. Chez les chrétiens issus du paganisme, c'est le problème des aliments consacrés aux idoles qui représentait un obstacle, 1 Corinthiens 8, 1,7, 10, 19. Or, les Corinthiens étaient issus de ce milieu païen et pour nombre d'entre eux la consommation d'aliments offerts aux idoles représentait un retour en arrière et constituait un obstacle à la conscience, 1 Corinthiens 8h10. Il faut donc admettre que l'apôtre traite ici d'un problème qui n'a plus cours aujourd'hui sous la forme précise qu'il revêtait au 1er siècle et dans le Nouveau Testament. En disant que tout n'est pas utile et que tout n'édifie pas l'apôtre, encore une fois, traite du bon usage de la liberté chrétienne et n'entend pas énoncer une vérité d'ordre général. En outre, Paul tient à souligner le souci que nous devons avoir de l'autre, dans ce que nous sommes libres de faire tout n'est pas utile pour les autres, tout n'édifie pas les autres. C'est pourquoi il ajoute, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. 1 Corinthiens 10h24. En effet, par l'usage absolu de mon droit et de la liberté chrétienne sans égard aux autres, je puis agir en parfait égoïste, de pour combattre cette forme d'égoïsme, l'apôtre énonce un principe important et qu'il s'efforce d'appliquer dans sa propre vie, moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. 1 Corinthiens 10h33. Paul est un chrétien concerné, avant toute chose, par le salut du plus grand nombre. Il agit toujours en fonction du salut des autres et non pour satisfaire ses droits ou sa liberté. À cet égard, il ne fait qu'imiter Jésus-Christ, Romains 15, 1 à 9. Dans toutes ses activités, l'apôtre veut se souvenir qu'il n'est pas envoyé pour perdre mais pour sauver, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de 2 litres bonnet commentaire sur les 2 épîtres aux Corinthiens page 171, Genève 1852. 74, l'évangile afin d'y avoir part. 1 Corinthiens 9h22, 23. Bien entendu, dans les questions de foi, dans ce qui fait l'objet d'un commandement précis, ou d'une interdiction, le disciple ne peut pas complaire au prochain. Il faut garder ce principe dans le contexte où Paul l'applique, c'est-à-dire l'usage de la liberté chrétienne. En fait, la complaisance dont parle l'apôtre n'est jamais au niveau de la vérité des principes, mais au niveau des personnes elles-mêmes qui se trouvent souvent prisonnières de leur propre faiblesse ou de leur conscience. Cette démonstration d'amour envers la personne n'exclut pas la haine du mal et de l'injustice. Il n'est pas question de faire soi-même entorse à la vérité sous prétexte de complaire au prochain. Complaire au prochain n'est donc pas complaire au mal. En outre, le disciple ne peut pas, sous prétexte de complaisance envers le prochain, enfreindre les convictions de sa propre conscience s'il a lui-même une conscience faible, confère Romains 14h23. Il faut donc non seulement comprendre la nature et l'objet de cette complaisance dont parle l'apôtre Paul, mais il faut encore savoir si l'on est capable de l'exercer. La recherche, face à la liberté chrétienne, de ce qui est utile au salut d'autrui et à l'édification de l'Église implique une autre exigence, celle de développer un discernement personnel pour nombre de questions et de problèmes qui se posent quotidiennement aux hommes et à l'Église et pour lesquels nous n'avons pas de réponse toute faite. Le but étant que nous puissions discerner non où se situe notre droit ou notre liberté, mais où se situe la parfaite volonté de Dieu. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. Hébreux 5h14, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez que est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, 2, « Il existe un lien certain entre ces passages et ce que nous avons dit au chapitre précédent concernant la place de l'intelligence dans la spiritualité, voir 1 Corinthiens 10h15. Le renouvellement de l'intelligence est donc à la fois le garant de l'ordre et de la bienséance et le garant d'un usage judicieux de la liberté chrétienne. 75, 2, deuxième principe, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6h12, 3 L'apôtre, toujours dans le contexte de la liberté chrétienne, présente ce qui semble, a priori, un paradoxe. Puisque tout lui est permis, l'apôtre parle toujours de ce en quoi Dieu nous a laissés libres, pourquoi, dès lors, parler d'un risque d'esclavage? De quel asservissement Paul parle-t-il? Paul refuse de devenir l'esclave de sa propre liberté. Il refuse l'obligation tyrannique de toujours rendre des comptes à sa liberté. Il n'y a plus de liberté dans l'obligation de la liberté. Le jour où tous les membres d'une assemblée se placent sous le joug de leur propre liberté, il n'y a plus d'assemblée. Et quand chacun insiste sur ses droits et sur ses libertés, on peut être certain qu'il en résultera des schismes. Car avant d'être le produit d'une doctrine, les schismes sont le produit de cœurs mal affermis ou trop charnels, 1 Corinthiens 3, 1 à 9. À l'instar du Christ et de son apôtre, les disciples doivent pouvoir librement renoncer à leurs droits et à leurs libertés, confère 1 Corinthiens 9h12, 13. Et cela peut être nécessaire, en particulier, si la foi ou le salut d'un autre est en jeu, et n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement, et à cause de sa conscience, je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? 1 Corinthiens 10h28 30. Pour le disciple fidèle qu'était Paul, il est plus important d'éviter un blâme que d'user de sa liberté. En somme, il n'y a aucun avantage à ma liberté lorsqu'elle me contraint à devenir un sujet de blâme ou de calomnie, Romains 14h16, lorsqu'elle me contraint à attrister mon frère ou à causer sa perte, Romains 14h15, ou lorsqu'elle détruit l'œuvre de Dieu, Romains 14h20. 3. Troisième principe, prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. 1 Corinthiens 8, 9, ce principe est lié au précédent. Il nous éclaire sur le rôle important de la conscience. Il est difficile de donner une définition précise de la conscience mais nous trouvons en Romains chapitre 2, un texte qui croise à servir, en grec exousiastosomal, je ne serai pas sans l'autorité, le pouvoir de quoi que ce soit. 76, s'apparente à une description du fonctionnement de la conscience. En effet, l'apôtre, en Romains 2, parle de conscience quand la pensée d'un individu opère un jugement en bien ou en mal sur ses actes. La conscience, dans ce texte, semble être le pendant de la loi chez ceux qui n'ont pas reçu la loi de Moïse, quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement qu'attre ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes, ils montrent que la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Romains 2h14, 15. Chez le juif qui a reçu la loi ce n'est plus seulement la conscience, c'est-à-dire la pensée qui exerce un jugement d'ordre moral, qui porte un jugement sur ses actes, mais c'est aussi, et avant tout, la loi, dont la fonction est précisément d'accuser ou de défendre, Romains 7, 7,12, 13,14, 22. 1 Timothée 1, 5s dans les textes ci-dessous, nous voyons la conscience à l'œuvre, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jean 8, 9, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Actes 24h16, notez qu'en Jean 8, 9. Les Juifs ne se sentent accusés par leur conscience qu'à partir du moment où Jésus les confronte à leur hypocrisie et à leur manque de miséricorde. Nous voyons en Actes 24:16 qu'il faut chercher à avoir une conscience sans reproche à la fois devant Dieu et devant les hommes. C'est cette double exigence qui fait qu'on ne peut se servir de la conscience comme d'un prétexte pour transgresser la volonté divine. Dans le contexte de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul n'offre pas un traité systématique sur le rôle de la conscience. L'existence et le rôle de la conscience sont ennemis au départ et l'apôtre situe le rôle de la conscience, pour le chrétien, dans les questions qui touchent à sa liberté. Il est clair qu'à Corinthe certains ne semblent pas avoir connaissance de la liberté dont ils jouissent en Christ, confère à 1 Corinthiens 4 naturellement, grec fusil, voyez aussi Romains 1:16, 2:27, 11:21, 24 où l'on retrouve le même terme, ici il y a un contraste entre le circoncis, le juif, et l'incirconcis de nature qui fait naturellement ce que prescrit la loi. 5. Par la conscience on exerce un jugement sur soi, mais c'est la loi révélée de Dieu qui demeure le critère déterminant de ce qui est bien ou mal. 77, 8, 1 à 3. À cet égard il se trouve dans le même cas que ces chrétiens convertis du judaïsme et qui se croient encore dans l'obligation d'observer les prescriptions alimentaires de la loi de Moïse, confère Actes 15:20, 21, 16, 3. Or, il faut bien remarquer que ces chrétiens troublés par leur conscience ne s'opposent pas à l'évangile qui leur enseigne l'affranchissement de la loi, ils se savent sauvés par Christ et frères avec ceux qui n'observent ni les restrictions alimentaires ni les jours de fête, ils ne cherchent donc pas à asservir les autres à leur propre conscience, confère Galates 2, 3, 4. Tout juste sortis du judaïsme ou du paganisme, ils ne peuvent encore concevoir pour eux-mêmes toutes les conséquences de l'affranchissement de la loi de Moïse ou de l'affranchissement des superstitions païennes, s'il ne faut donc pas assimiler ces chrétiens à ceux qui voulaient judaïser ou s'opposer aux vérités fondamentales de l'Évangile. On ne peut, cependant, invoquer la conscience à tout propos. Il faut être respectueux de la conscience sans pour autant négliger les conséquences morales ou spirituelles d'un comportement. Nous en avons un bon exemple avec Pierre qui ne voulut plus manger avec les païens, les chrétiens non-juifs. Il agissait par hypocrisie et non par faiblesse dans la foi. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes il mangeait bien avec les païens sans pour autant être perturbé par sa conscience, Galates 2:11-14. Il ne faut donc pas confondre le légalisme doctrinal ou le pharisaïsme religieux avec la faiblesse de conscience. Il faut toujours se souvenir qu'il existe une différence entre une conviction produite par la conscience et une conviction produite par la parole de Dieu, par ce qui est expressément enjoint ou interdit dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on invoque ce principe, il faut donc s'assurer qu'il s'agit réellement d'une conviction produite par la conscience. Dans tous les domaines où le Nouveau Testament ne nous enjoint rien, il faut que chacun soit libre d'agir selon la conviction de sa conscience, sans cette latitude, la conscience elle-même serait abolie. Mais dans l'application, souvent difficile, de ce principe, il est bon de s'assurer de trois choses. Si c'est en songeant à ces chrétiens faibles en la foi que Paul rédige le 14e chapitre de l'Épître aux Romains. Cette la foi vient de ce qui est enjoint par la parole de Dieu, Romains 10:17, il y a faiblesse de la foi lorsque ce qui est enjoint par la parole de Dieu, ou autorisé par la parole de Dieu, n'a pas été bien assimilé ou compris, c'est alors qu'intervient la conscience. Dans ce cas, l'amour doit toujours prédominer sur la connaissance, 1 Corinthiens 8, 1:3-10-13. 78, 1, s'agit-il d'un domaine où l'on peut réellement agir en toute liberté? S'agit-il d'un domaine où le Nouveau Testament n'a rien enjoint? 2, en ce domaine le frère ou la sœur agit-il réellement selon la conviction produite par la conscience, confère Romains 14:23? 3, n'y a-t-il pas une confusion entre une conviction personnelle produite par la conscience, et qui doit être respectée, et ce qui fait autorité pour tous les disciples sans exception? Il est nécessaire de se poser ces questions afin que le frère qui est faible en la foi ne soit pas en mesure d'imposer comme une norme pour toute l'Église ce qui n'est que la conviction de sa propre conscience ou ce qui ne peut être autorisé de toute façon. Il est clair qu'en toute chose une norme existe. Pour la question des aliments, Paul rappelle qu'il y a une norme pour l'Église, rien n'est impur en soi, 8. Voir Romains 14:14. 1 Corinthiens 8, 8, 9, 4. Par conséquent, nul ne peut imposer à l'Église des restrictions alimentaires sous prétexte d'une conscience faible. Celui qui le ferait deviendrait, du même coup, un faux docteur, semblable à ceux qui prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. 1 Timothée 4, 3, confère Colossiens 2:16. Celui qui est faible dans la foi ne devrait pas prescrire, ne devrait pas enseigner. À partir du moment où un enseignant, ou un conducteur spirituel, impose les dictées de sa propre conscience, Il devient un faux docteur portant la marque de la flétrissure dans sa propre conscience, en prenant sur lui-même d'imposer aux autres les dictées de sa conscience, il contribue, en fait, à la satisfaction de la chair, Colossiens 2h23, ou au joug de la servitude de la loi, Galates 5, 1. D'où l'avertissement de Jacques, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques 3, 1. Nombre de personnes ont fondé des sectes ou des églises en s'appuyant essentiellement sur les dictées de leur conscience faible et non sur les enseignements du Christ et du Nouveau Testament, ce qui, d'ailleurs, était prophétisé. 1 Timothée 4, 1 à 5. C'est pour cette raison que les sectes suivent non pas le Nouveau Testament, mais des gourous, des huit encore une fois l'affirmation que rien n'est impur en soi ne doit pas être sorti de son contexte, c'est-à-dire une discussion du problème de la liberté chrétienne. 79, maître. Des sages. Ces hommes ont à cœur d'imposer les interdits de leur conscience et sont, en réalité, dépourvus du souci des âmes. 4. Quatrième principe, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10h31, encore une fois, l'apôtre Paul traite ici du bon usage de la liberté chrétienne. Dans les domaines où les disciples ont toute liberté d'agir, ce n'est plus l'acte lui-même qui a une valeur morale ou spirituelle mais l'état d'esprit avec lequel l'acte est accompli. Quand le disciple se trouve dans une situation où il peut user de sa liberté, il doit se poser la question suivante, quel est mon état d'esprit? Quelle est mon attitude? Et dans ce cas c'est l'attitude et non plus l'acte lui-même qui détermine si ce qu'on fait est bien ou mal, utile ou inutile. Toutes les actions du disciple qui entrent dans cette catégorie, même les plus banales, manger, boire, etc., peuvent être faites à la gloire de Dieu. En faisant les actions les plus banales pour la gloire de Dieu, le disciple s'offre tout entier, dans tout ce qu'il fait, comme une offrande vivante, sainte et agréable à Dieu. Et lorsque les actions les plus banales sont faites pour rendre gloire à Dieu, elles constituent un culte à Dieu, Romains 12, 1, 2. Notons bien que l'attitude ou l'état d'esprit ne détermine pas la valeur morale ou spirituelle d'un acte quand il s'agit d'un acte dont Dieu a déjà déterminé la valeur morale ou spirituelle, nous restons toujours dans le domaine de la liberté. Par conséquent, il ne peut être question pour le chrétien de mentir, d'être impudique, de modifier le culte ou l'organisation de l'Église, en prétextant une bonne attitude. Nous avons déjà parlé de ce principe capital, le zèle ou la sincérité ne remplacent pas l'obéissance, mais doivent simplement l'accompagner, confère 1 Samuel 15h22, 23, Romains 10, 2,3, Jean 16, 1 à 3. Mais dans tous les domaines de la vie où nous pouvons agir en toute liberté, le même homme peut s'abstenir pour la gloire de Dieu ou manger et boire pour la gloire de Dieu, et il en est ainsi de tous les actes de notre vie. Elbonnet.9 La recherche de la gloire de Dieu, en toute chose, en tout temps, est le principe suprême qui doit gouverner la vie de tout croyant. Il est même difficile de parler de foi ou de croyance chez celui qui ne 9 litres bonnet commentaire sur les deux épîtres aux Corinthiens page 172. 80. Recherche pas la gloire de Dieu, comment pouvez-vous croire? Vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Jean 5h44. Et l'on peut dire que la multiplicité des sectes, des dénominations, des églises, des rites, des cultes, des confessions, des traditions au sein de la chrétienté ne proviennent généralement pas d'autre chose, on a cherché la gloire des hommes et non celle de Dieu seul.